Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Grand Large présentée par la propédeutique. Petit rappel sur ce qu'est la propédeutique, 9 mois de discernement sur la vocation ou non à devenir prêtre. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de musique, et pas n'importe quelle musique, mais de la musique chrétienne, et cela au travers de l'histoire. Pour aborder ce vaste sujet, j'ai avec moi en ce dimanche matin Benoît, Luc, Sébastien, et comme invité d'honneur, le père Emmanuel Boller, enseignant le catéchisme de l'Église catholique et le chant à la propédeutique, et titulaire d'une licence en musicologie. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Alors, sans attendre, passons tout de suite au sujet de l'émission de ce matin, et c'est Luc qui commence. Luc, tu vas nous parler de la musique pré-chrétienne, c'est-à-dire avant le christianisme, et du chant grégorien.
Exactement, Gauthier. Alors, effectivement, les commencements de la musique sont peu connus. Les mythes anciens attribuent à la musique une origine divine, cependant. Donc, dans les premiers temps, elle faisait partie du culte. Les premiers témoins de la musique sont les découvertes d'instruments, dont les plus anciens datent du paléolithique. Donc, dans ces civilisations, la musique reste d'abord liée au culte et ne devient que plus tard un mode d'expression esthétique. Si les conceptions sur la musique n'ont cessé d'évoluer, les instruments de musique sont restés relativement les mêmes dans leurs principes. Donc, dans la préhistoire, nous faisons un bond dans le temps pour parler de la musique de l'Église primitive du 1er au 4e siècle. Celle-ci a pour source la musique sacrée juive, avec la tradition des psaumes chantés, mais aussi la musique des civilisations grecques du monde méditerranéen de la fin de l'Antiquité. À la différence des cultes païens de l'Antiquité, les instruments sont bannis du service religieux chrétien. La parole devait y être proclamée et les instruments pouvaient détourner l'attention de l'auditeur. Cette interdiction reste en vigueur dans l'Église orientale. Donc le chant liturgique que l'on appelle monodique, c'est-à-dire sur un seul... un chant mélodique qui n'a pas plusieurs voix, qui est en latin, encore en usage dans l'Église catholique, est appelé chant grégorien. Cela provient du nom du pape Grégoire Ier, donc du début du 7e siècle. Il s'est développé avec l'affirmation et la rapide expansion du christianisme à travers les écoles spéciales de chantres, les Schola Cantorum. Les principales furent celles de Tours, de Metz et de Saint-Gall. Ces monodies grégoriennes s'enrichissent bien sûr par la suite en devenant des polyphonies beaucoup plus variées. C'est seulement au début du XIe siècle que Guy d'Arezzo imagine les syllabes de solmisation pour désigner les notes telles qu'on les connaît en France et dans le pays latin, ut, ré, mi, fa, sol, la, si. Et en fait, ces syllabes proviennent de l'hymne de la Saint-Jean-Baptiste du 8e siècle. Donc, on peut dire que les notes de musique ont une origine religieuse. Donc, on va écouter la séquence de Pâques, qui est un chant grégorien chanté par les moines de Solesmes. Salve.
Merci Luc pour ton intervention. Alors je me tourne maintenant vers le Père Boller, notre invité de ce matin. Père, ma première question porte sur l'instrument de musique employé dans nos églises, l'orgue, puisqu'on a entendu à l'instant que dans les premières communautés et dans l'église orientale, on n'emploie pas d'instrument de musique. Alors pourquoi cet instrument plus qu'un autre ?
Alors il se trouve que l'origine, au moins de l'orgue en Europe, Luc nous parlait de l'héritage grec, puisque ce sont surtout les Grecs qui ont développé l'instrument de l'orgue, qui au départ s'appelait hydrôle, c'est-à-dire on se servait de l'eau pour faire la pression de l'air, pour faire sonner les tuyaux. Et en fait, le premier orgue est arrivé en Europe par l'empereur Constantin qui a offert cet instrument à Pépin le Bref. Et donc, bien sûr, c'était un instrument de cour. Et en fait, Pépin le Bref était assez admiratif de cet instrument. Et en fait, il l'a confié à des moines. Et en fait, c'est à partir de la tradition monastique que les moines se sont intéressés à la construction des orgues, à la facture, et que petit à petit, par le biais des moines, il a fait son entrée dans la liturgie. Et il reste bien sûr l'instrument de nos églises, précisément parce qu'il a évolué au sein de l'église. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un petit orgue portatif, et il est devenu de plus en plus grand, et la facture d'orgue était, jusqu'à l'heure actuelle, la plus adaptée pour l'acoustique des églises, pour devenir jusqu'à les orgues monumentaux, qui épousent totalement en fait l'espace.
Merci pour votre réponse. Seconde question, elle porte sur un registre, cette fois musical, qui est la musique baroque. Alors, quels sont, en quelques mots, les caractéristiques de la musique baroque? À quelle époque peut-on la situer? Et si vous pouvez nous donner quelques grands compositeurs et quelques œuvres baroques.
Alors, il est clair que la musique baroque, on n'a pas tout à fait l'époque précise où apparaît cette esthétique. Cependant, on peut dire que le premier compositeur qui a vraiment fait basculer le monde de la musique dans l'esthétique baroque, entre la Renaissance et le baroque, c'est Monteverdi, avec ses célèbres madrigaux, donc qui sont des recueils de poésie. Alors, quelle est l'esthétique un peu baroque? C'est que l'on va quitter la musique savante de la Renaissance. Parce que la musique savante de la Renaissance était une musique très pure, avec un système contrapuntique très très complexe. Et alors, le baroque va essayer de développer ce qu'on appelle les affects. C'est-à-dire, on va vouloir traduire les sentiments, donc avec une musique beaucoup plus verticale que très linéaire. Et donc, sera après caractérisé par toute une exubérance, tout un style nouveau qui traduira ce que l'on appelle, puisqu'il y a les traités de théorie de la musique baroque, ce qu'on appelle la théorie des passions, c'est-à-dire comment traduire les passions en musique. Alors, l'un des auteurs un peu fétiche, c'est Jean-Sébastien Bach, puisque précisément, au point de vue de l'histoire de la musique, c'est à la mort de Jean-Sébastien Bach que meurt avec lui le style baroque pour après passer au classicisme.
Très bien. Alors, nous vous avons demandé de choisir un extrait musical concernant cette période baroque, donc on va écouter tout de suite Le Regina Celli, voilà, de donc, Marc-Antoine Charpentier.
Voilà. Pour découvrir la musique baroque française.
Voilà, on écoute. Voilà donc le Regina Celli de Marc-Antoine Charpentier. Alors maintenant, je reviens vers Luc. Après donc le chant grégorien, tu vas maintenant nous parler de la période classique, que l'on peut situer, arrête-moi si je me trompe, au XVIIIe siècle, et de la musique au XIXe.
Alors effectivement, donc, en réaction contre les traits dominants de l'esthétique baroque, donc, qui manifestaient une certaine emphase, un pathos, une pompe, parfois aussi un certain artifice, comme on a pu l'écouter dans cet extrait, le style classique recherche plus la simplicité et le naturel. Donc cette période du classicisme musical se situe symboliquement entre la mort de Bach en 1750 et la mort de Beethoven en 1827. Donc ce style est essentiellement instrumental, même si la musique religieuse est toujours très représentée. Par-delà la foi chrétienne, la vision du monde optimiste de l'époque classique se manifeste surtout dans la musique d'église catholique, très influencée par la musique profane, comme on peut le voir dans les messes de Mozart. On a d'ailleurs l'extrait du Requiem de Mozart qu'on va écouter, donc c'est le Kyrie du Requiem de Mozart. Thank you. on voit une certaine puissance quand même de cette musique du classicisme. On enlève un petit peu, donc c'est peut-être ces petites fioritures du baroque, mais là on a en fait un double cœur. Hein, donc il y a vraiment la puissance maximum pratiquement qu'on peut donner à un cœur. Donc le Requiem de Mozart, vraiment figure emblématique de cette période. La période suivante, qu'on appelle le 19e siècle, est l'époque du romantisme. Donc comprise entre Beethoven et la Première Guerre mondiale, cette période ne présente pas de réelle rupture avec le classicisme, mais c'est vrai que de nouveaux éléments poétiques, métaphysiques, pénètrent peu à peu la musique. On oscille un petit peu entre intelligence et sentiment. On a beaucoup plus l'expression du moi, le subjectivisme et l'émotion qui dominent. Donc la musique sacrée au XIXe siècle ne joue plus vraiment de rôle central. Elle n'a plus ce rôle central qu'elle jouait auparavant. Bien sûr, à cause de la sécularisation de la société bourgeoise qui s'émancipe vraiment de l'Église. Donc si la musique d'Église, donc réservée à la liturgie, devient donc maintenant plus l'apanage de compositeurs de second ordre, les grands créateurs ont laissé des œuvres sacrées de premier plan, mais qui souvent sont impropres à la liturgie. En outre, on pourra donc noter en particulier une renaissance de la musique d'église protestante, comme par exemple le Requiem allemand de Brahms, qui en est l'exemple le plus éclatant. On va écouter un extrait tout de suite. Donc là, on voit vraiment l'ambiance qui est mise de cette période du romantisme. Donc on a un tapis comme ça qui se fait jour avant l'entrée de la voix. Et vraiment, une période très intéressante, ce romantisme, mais qui n'est plus vraiment, disons, en lien direct avec la musique du culte. Hein. Ça devient plus des spectacles musicaux. Et c'est aussi une époque où est remis au goût du jour un peu l'oratorio, qui avait déjà commencé à prendre corps à la période baroque. Si à la fin du XIXe siècle a encore produit quelques chefs-d'œuvre de musique sacrée, dont le fameux Requiem de Gabriel Fauré, le XXe siècle marque ensuite une rupture globale. Donc cette période du XXe siècle, elle commence à partir de la Première Guerre mondiale. C'est cette époque, en fait, où on va expérimenter la musique atonale, et la musique sacrée prendra de moins en moins de place, disons, dans le répertoire des grands compositeurs de l'époque. Hein. En revanche, de nouvelles formes de musique sacrée vont voir le jour à cette époque.
Nous avons pu entendre ce matin le père Boller, Luc, à deux reprises. Je me tourne maintenant vers nos deux autres compagnons, Benoît et Sébastien, qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Alors vous allez nous parler de la musique liturgique moderne, celle que l'on appelle actuelle, et des groupes chrétiens.
Après le Concile Vatican II, donc vers la fin des années 60, l'Église a voulu davantage impliquer les chrétiens dans les célébrations. Et donc à partir de cette époque, il y a une vaste composition de chants dans le but de permettre cette participation. Donc parmi tous ces compositeurs, on peut nommer M. Berthier, Gouze, Akepsimas, etc. Pour rejoindre plus particulièrement les jeunes, on a des compositeurs comme Laurent Grybowski et les moines de Thésée. Donc Thésée, qu'est-ce que c'est, ou plutôt où c'est? C'est donc une communauté de moines en Bourgogne, et leurs chants sont très connus et ils sont assez souvent repris dans les paroisses. Donc cette communauté de moines accueille chaque année des milliers de jeunes qui viennent du monde entier, et donc leurs chants sont en plusieurs langues, et chacun peut ainsi participer. On peut penser que ce sont des chants assez anciens au vu du style musical, mais bon, ce sont des chants qui parlent aux jeunes et qui les aident vraiment à créer un climat de prière. Voilà, et donc tout simplement pour vous présenter un petit peu le style de musique qu'on chante à Thésée, on vous propose d'écouter Jésus le Christ. Passer à quelque chose d'un petit peu plus rythmé, on a Laurent Grybowski qui, lui, compose des chants qu'on appelle des chants de louange. La louange, qu'est-ce que c'est, pardon ? C'est rendre grâce à Dieu pour ce qu'il nous donne de vivre. Voilà, le remercier pour la création, etc. Et c'est un style musical qui se rapproche assez de la variété française. Ça permet d'avoir des assemblées un petit peu plus dynamiques et ça tranche, entre guillemets, avec des chants un peu plus caricaturaux. On vous propose donc d'écouter « Mille raisons d'espérer ».
Qui libère
l'évangile éclaire nos pas.
L'esprit façonne un monde frère.
La vie aura le dernier mot. Mille raisons d'espérer. La vie nous porte à la confiance. Mille raisons d'espérer sur nos chemins de résistance. Mille raisons d'espérer. Voilà,
donc comme vous avez pu l'entendre, il y a une assez nette différence de style entre ces deux chants. Et donc on appelle tout cela de la musique liturgique. Ce sont donc des chants qui sont plutôt destinés à être utilisés dans des célébrations, des messes, etc. On pourrait encore parler longuement des musiques liturgiques, mais je vais laisser la parole à Sébastien qui lui va vous parler des musiques actuelles chrétiennes.
Voilà, alors... Depuis quelques années, en fait, il y a des groupes chrétiens qui éclosent un peu partout avec des musiques, mais qui ne sont pas adaptées pour les célébrations. Alors longtemps, il a été difficile de les définir, ces groupes, et de savoir à quelle place leur accorder dans l'Église. Alors l'Église, pas juste en tant que bâtiment, mais plus largement. Et donc, pour trouver vraiment leur place, les évêques de France ont planché sur ce problème, enfin ce problème entre guillemets, hein. Et en 2010, ils ont publié un texte qui leur donnait un statut officiel en parlant de musique actuelle chrétienne. Alors, comme les groupes profanes, ils font parfois des tournées et tout comme les groupes profanes, ils ont un style qui leur est propre. Alors ils s'inspirent du rock, du rap, du reggae, du metal, du death metal et bien d'autres. Les premiers groupes sont nés aux USA dans les années 80. En France, les premiers groupes ont à peine émergé à la fin des années 90 avec Glorious, Push, Spirit, Exo, etc. Enfin, il y en a plein d'autres. Alors, ces groupes n'ont pas pour but d'animer des messes, mais plutôt de transmettre le message chrétien aux jeunes à travers les styles musicaux qu'ils écoutent. Alors, parfois, ces groupes se reconvertissent dans le profane, tels que U2 ou encore Evanescence, pour ne citer que, qui ont débuté dans des églises. Alors, pour vous illustrer ce qu'est de la musique actuelle chrétienne, je vous propose d'écouter Push Receive the Power.
To worship you. In your presence we delight. We will follow to the end of the earth. Alleluia. Alleluia. Receive the power from the Holy Spirit.
Or voilà, comme on l'entend, une musique qui n'est pas adaptée aux célébrations. Alors, encore une petite anecdote, tout à l'heure, c'est peut-être passé inaperçu, j'ai dit du death metal chrétien. Alors, ça peut faire sourire, mais alors c'est encore plus marrant quand on découvre que c'est un moine qui a fondé ce groupe de death metal, qui s'appelle Fratello Metallo. Alors, ce moine a tous les atours d'un moine, bien entendu, mais en plus d'un chanteur de death metal, ça fait un cocktail assez explosif. Alors, je vous invite vraiment à aller voir ce clip sur Internet, ce moine métalleux, donc Fratello Metallo, ça vaut le détour.
Merci à tous les deux. Alors, pour clore cette émission, nous allons la clore ensemble avec le Père Boller, voilà. Donc, après ce brossage rapide de l'histoire de la musique chrétienne, pouvez-vous nous dire, premièrement, quelle est votre période musicale préférée ? Est-ce que vous êtes plutôt baroque, grégorien, époque classique ou moderne, actuelle ?
Alors moi, je suis plutôt moderne, mais pas dans ce qui était entendu dans les musiques contemporaines chrétiennes, mais plus après avec des instruments plus traditionnels, qui aussi a un répertoire s'ouvrant avec les réformes atonales, polymodales et polyrythmiques. Tout un répertoire qui existe, qui n'est pas toujours très connu, comme des compositeurs comme Thierry Esquèche, Olivier Latrie, enfin tous ces gens-là.
Alors, on a aussi parlé donc de quelques groupes chrétiens, tels que Glorious, on a parlé aussi d'un moine métalleux. Que pensez-vous de cette musique, en général, de ces groupes ?
Ah bah de toute façon, il est clair que pour l'annonce de la bonne nouvelle, comme elle doit toujours se dire, avec les cultures et les styles de chaque époque, donc il est tout à fait légitime que ces esthétiques puissent servir à transmettre le message de la bonne nouvelle. Alors c'est vrai qu'après se pose la question de l'adaptabilité avec la liturgie, mais bon, ça c'est toujours une question qui est récurrente à travers tous les siècles, donc on n'y coupera pas.
Merci Père. Voilà, donc c'est la fin de cette émission. Nous nous retrouverons donc le mois prochain pour l'ultime grand large de la saison 2012-2013. À cette occasion, c'est l'ensemble de la propédeutique qui interviendra. Je remercie encore une fois au nom de nous quatre le Père Boller d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Et je vous souhaite un excellent dimanche. À très vite.